concerning the spiritual.
Vous avez dans la 1279 un soutien qui, en fait, une demande sur laquelle on demande de statuer sur plusieurs chefs. Je vais avec vous résumer le contenu de notre demande. Alors, vous avez tout d'abord une demande de réduction de loyer qui se chiffre par 100$ par mois pour la durée des travaux et 100$ par mois durant toute la période de temps où les étudiants ont été évincés de leur logement.
Comment vous dites ça? 100$ par mois pour la durée des travaux et 100$ par mois?
Pour toute la durée.
Pour tout.
Où les étudiants sont demandés.
Pour l'ensemble de la durée. Pour l'ensemble. Parce que si on paie 100%, on arrive en.
Vous avez un montant supérieur au loyer.
C'est ça.
C'est, okay. C'est pour le surplus de temps, si vous voulez.
Okay.
Où l'étudiant est revenu dans son studio, mais les travaux n'étaient pas demandés. Alors, la preuve a été faite par le biais de 65 étudiants et la preuve est prise. Je comprends bien, merci, dans tous et chacun des dossiers. Soit les 79 demandes qui sont présentes à vos entreprises. Vous avez dans un deuxième temps une demande en dommage que l'on a ventilée de façon suivante. Par 1500$ à titre de dommage intérêt. Que l'on se plaît à qualifier dans le dictionnaire jurisprudent de dommages moraux. Vous avez également une demande de 2000$ à titre de dommages punitifs. Non adjoint deux paires de chapitres à ce dommage-là. On va en dépendre 2000$ à titre de dommages punitifs et de dommages exemplaires. Alors, le dommage punitif étant basé sur les dispositions du Code civil et le dommage exemplaire basé sur la charte. Alors, les dommages punitifs sont prévus par l'article 19.02 du Code civil. Vous avez également une troisième demande. Qui est l'annulation de l'annexe qui était joint à l'avis de réparation majeure, que l'on qualifie de changement au règlement de l'existant. Vous avez une quatrième demande et. Qui rejoint, si vous voulez, les dommages quantifiés et réclamés, qui est une demande de rembourser les argents que les étudiants ont dû payer pour produire les demandes à la régie du logement, ainsi que les frais de signification, qui, je pense, se limitent dans votre optique à 6$ par rapport à la signification.
Ça a été signifié par l'huissier?
Par l'huissier. Non, c'est plus que 6$.
Le maximum de règlement, c'est 6$.
Vous avez également une partie de demande de jugement déclaratoire. On est dans un domaine nouveau. La jurisprudence n'est pas abondante sur les articles. Maison d'enseignement. Mon confrère en a cité deux ou trois, et je pense que le fait le tour de la question en citant ces deux ou trois causes de jurisprudence. Vous avez des articles qui sont ambigus. Je vous soumets, je vous plaisais plus tard qu'il y a des villes dans la loi. Et dans ce sens-là, on vous demande de constater la prolongation automatique du bail. Alors, on aura à discuter s'il s'agit d'une prolongation automatique de 8 mois, s'il s'agit d'une prolongation automatique de 4 mois, à laquelle on a ajouté un autre mois par la suite. Alors, c'est l'aspect qui est en ligne. Cet aspect-là est important dans le sens où, en fonction d'une prolongation de bail, évidemment, il y a l'accessoire ou le principal, si vous voulez, qui est le maintien en ligne. On vous demande également de déclarer que les locataires ont été évincés illégalement. Dans l'optique où les exigences de l'article 19-20 prévoient la procédure à suivre en cas de réparation majeure, n'a pas été respectée. Et que ces articles-là, en fonction de l'article 18-93, sont des articles d'ordre public. On vous demande également de statuer sur la portée du deuxième paragraphe de l'article 1980. Alors, il ne semble pas y avoir, j'ai fait tous les jurisprudences logement récents depuis l'amendement, il ne semble pas y avoir de décision qui détermine ce que pourrait être un motif sérieux qui permettrait à un établissement d'enseignement de reloger un étudiant dans un logement du même genre, dans un logement équivalent. Et en fonction de la qualification que vous allez donner, ou à l'interprétation que vous allez donner au deuxième paragraphe de l'article 1980, il faudra se poser la question de savoir si l'article 1980 peut l'emporter sur l'article 1980. Qui est député d'ordre public par l'article 1893. Et en dernier, ben, on vous demandait de réintégrer les étudiants dans les studios qu'ils habitaient au printemps dernier. Mais cette demande-là est demain devenue caduque, qui se fait par une réintégration qui a été faite à la fin du mois. Je pense que la première question qu'il faut aborder est la nature du bail qui existe dans un établissement d'enseignement. Alors, en vertu de 1979, un bail dans une maison, dans un établissement d'enseignement est directement relié à l'inscription de l'étudiant à temps plein dépôt. Un étudiant à temps plein, inscrit à temps plein, à des cours de l'université, qui habite un établissement d'enseignement dirigé par, effectivement, l'établissement d'enseignement, profite du maintien dans l'université. Il y a une exception à ce principe-là, qui est l'étudiant qui habite l'établissement d'enseignement, que pour la période estivale. Alors, si je comprends bien dans notre cas, du 1er mai au 31 août, il devait en cours. Alors, je comprends de cette partie-là qu'il faut vraiment que l'étudiant ait habité les résidences que pour la période estivale et qu'il n'est pas inscrit à temps plein, comme étudiant. Le 1979 précise que le maintien d'un lieu profite à l'étudiant pour toute période pendant laquelle elle est inscrite à temps plein. Alors, il y a l'expression pour toute période qui me semble pas claire. Est-ce qu'on doit interpréter toute période en fonction de son inscription à temps plein à l'Université de Montréal? Ou est-ce qu'on doit interpréter toute période dans le sens où, dans notre temps particulier, il y a des périodes de 8 mois, il y a des périodes de 4 mois. Mais je reviens. L'article 1979 en parallèle avec l'article 1941.
L'article
1941. Qui précède le droit au maintien d'un lieu. en fonction du 1941, un locataire, indépendamment de son statut personnel à l'extérieur du fait qu'il est un locataire, a automatiquement droit au maintien dans les lieux et à la fonction de son bail pour toute la période prévue au bail antérieur. Alors, une personne qui aurait un bail de 8 mois aurait le droit automatiquement à une prolongation de bail de 8 mois. 12 mois, 12 mois, 15 mois, 12 mois. Dans le cas qui vous est soumis, est-ce qu'on doit comprendre que l'étudiant qui est à temps plein pour la période de l'automne et de l'hiver aurait droit en fonction de 1941 à une prolongation automatique de son bail pour une période de 8 mois? Parce que le bail antérieur est 8 mois. Ce qui ferait que l'étudiant qui termine au 30 avril aurait droit de reconstruction jusqu'au 31 décembre. L'université ne semble pas appliquer ce principe-là. M. Duval nous a répété que les baux qu'il faisait étaient des baux de mérite. Je vous avoue que je n'ai pas de solution au problème. Théoriquement parlant, est-ce que 1979 peut ne pas correspondre à 1941? Il faut s'appeler que 1941 est également un article non public. On va dire que 1969, dans le fond, fait partie de la même section. Est-ce qu'on doit comprendre que la façon dont la loi est appliquée ou comprise n'est pas comprise de la bonne façon, dans le sens où il y a une prolongation de ce qu'il y a? Est-ce qu'on peut par contre dire que la prolongation automatique ne se fait pas durant la période estivale, mais la prolongation automatique ne se fait que durant la période de temps où l'étudiant étudie? Soit de septembre à avril. Il est de septembre à avril pour l'année suivante. Mais qu'est-ce qui arriverait, par exemple, à un Sénégalais qui demeurerait ici en permanence pour une période de 4 ans, le temps de scolarité universitaire, à qui l'université lui dirait, ben, c'est même valeur, cet été, on loge des touristes, c'est pas l'esprit. Qu'il le ferait, c'est une hypothèse envisageable. Est-ce que cet étudiant-là n'aurait pas le droit à une prolongation automatique de son bail, soit pendant une période de 4 mois, ou soit pendant une période de 8 mois, parce qu'il demeure inscrit à temps? Mais je vous soumets que dans un cas ou dans l'autre, pour ce qui nous concerne, le maintien dans les lieux, et les termes le disent clairement, permet à un locataire de demeurer dans le même logement lors de la prolongation de son bail. Ça lui permet de ne pas être délogé et de continuer à habiter le studio dans notre cas, qu'il a occupé durant la période d'automne et d'hiver. Les seuls cas où, je vous soumets respectueusement, où l'étudiant n'aurait pas le droit au maintien dans les lieux et à la prolongation de son bail, sont prévus par deux articles, qui sont les articles particuliers, hein, des baux dans les établissements d'enseignement. Alors, vous avez l'article qui interrompt le droit au maintien dans les lieux, qui est 1983. Alors, vous n'aurez pas le droit à la prolongation de votre bail en fonction de 1983. Si la personne a terminé ses études. faire une cause qui ferait échec au droit au maintien dans l'église. Le deuxième motif, c'est lorsque l'étudiant ne serait plus inscrit dans l'établissement d'enseignement. Ce qui aurait comme conséquence, évidemment, en fonction de 1979, parce que le principe du maintien dans les lieux est basé sur l'inscription dans une maison d'enseignement, de faire échec au droit au maintien dans les lieux. Vous avez un autre cas aussi qui a été jugé en jurisprudence, où il n'y a pas aucune cause, ça a été soumis par mon confrère dans son cahier, où l'étudiant devient un étudiant temps partiel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'étudiant qui est inscrit à temps plein a droit de maintenir dans les lieux pour la période estivale? 4 mois. Donc, a le droit de demeurer dans le même studio dans lequel il demeurait pour la période d'hiver. Est-ce que 1941 s'applique dans le cas du maintien dans les lieux? Est-ce qu'il y a une prolongation pénalité du bail pour la période antérieure, même si ce n'est pas appliqué de cette façon-là?